Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On continue avec ce chapitre 2 de l'article 9 qui parle de l'origine, la fondation et la mission de l'Église. Alors on a vu dans les émissions précédentes la préfiguration de l'Église, ensuite la préparation de l'Église. Et on arrive aujourd'hui au numéro 763 avec l'institution de l'Église par le Christ Jésus. Pourquoi le Fils, le Christ, a autorité pour réaliser définitivement ce projet de Dieu de réaliser une Église?
Le Christ a l'autorité que le Père lui a donné, qui est l'autorité de Dieu lui-même, puisque le Fils est Dieu. Il y a d'abord eu les prophètes qui avaient seulement mission de parler au nom de Dieu. Et c'est directement la source même de la divinité qui nous parle, puisque le Père parle par le Fils et il rend présent son Fils. Quand au moment du baptême, il y a cette théophanie où Jésus descend dans le Jourdain, eh bien, il y a la colombe de l'Esprit qui atteste que c'est bien Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, mais aussi la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et pareil, au moment du Tabor, au moment de la Transfiguration, il y a cette même voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc Jésus a l'exousia, comme dit les textes du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'autorité pour parler au nom du Père. C'est le Père lui-même qui l'a dit à Jésus. Et donc cette autorité va lui permettre d'exercer sa mission et d'instituer l'Église. C'est ça, le grand moment de Saint Marc, par exemple, au chapitre 3, verset 14, où il nous dit que le Christ a epoiesen, c'est-à-dire a fait de ses disciples des apôtres. Il a choisi 12 et il les a constitués, il les a institués. C'est comme le verbe créer. C'est très beau, le verbe créer, c'est Dieu qui fait les choses de rien. Eh bien, dans la traduction donc grecque de l'Ancien Testament, pour le verbe bara, la Septante, donc la traduction grecque de l'Ancien Testament, dit que bara, c'est epoiesen, c'est-à-dire il a fait, il a créé. Eh bien, on retrouve exactement le même verbe en Marc chapitre 3, verset 14, où le Seigneur a fait ce groupe, a rassemblé ce groupe et l'a stabilisé, l'a établi, et il nomme à ce moment-là les 12 pour être avec lui d'abord et puis pour recevoir leur mission. Mais d'abord pour être avec lui. C'est très important, ce premier moment de communion. Le Père veut établir la communion avec les hommes et il commence tout de suite par exercer le terme, c'est-à-dire la communion. Jésus a d'abord établi la communion avec ses apôtres et leur a donné la mission. Marc, donc, 3,14. C'est cette institution de l'Église qui a donné aux apôtres une participation à l'exousia du Christ, c'est-à-dire à son autorité. Et quand Jésus dit au moment de la résurrection, « Comme le Père m'a envoyé en Jean chapitre 20, moi aussi je vous envoie », on comprend bien qu'il y a une délégation de cette autorité. Et donc cette institution est tout à fait fondamentale, ce qui a donné à l'Église un droit d'institution. L'Église peut instituer des nouveaux diocèses, des nouvelles églises particulières, elle peut aussi légiférer. Elle a tout un code de législation et cette institution est donc absolument radicale et relève de l'institution même que le Christ a fait depuis l'origine. Donc nous devons revenir sans cesse à ces textes, je dirais, fondamentaux pour bien comprendre la grandeur de ce moment. Il appartient au Fils de réaliser dans la plénitude des temps le plan de salut de son Père. C'est là le motif de sa mission, on vient d'en parler, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Seigneur Jésus posa le commencement de son Église en prêchant l'heureuse nouvelle, l'avènement du règne de Dieu promis dans les Écritures depuis les siècles. C'est donc à travers la thématique du règne de Dieu que Jésus va commencer à rassembler autour de lui ses disciples, ses apôtres, qui sont déjà le règne de Dieu commençant.
On peut faire un lien entre royaume de Dieu et Église ?
Oui, tout à fait. Il est convenu, d'après les textes du Nouveau Testament, de comprendre que l'Église, c'est le royaume de Dieu déjà commencé. Et bien sûr, on pourrait s'étonner en disant « mais on voit beaucoup de péchés, beaucoup de pécheurs dans l'Église ». Alors c'est vrai que l'Église rassemble des personnes qui ne sont pas encore saintes, mais qui sont appelées à travers les purifications nécessaires à la sainteté. Et alors parfois, malheureusement, il faut attendre le purgatoire pour que les choses se fassent. On souhaiterait qu'il y ait plus de saints pour que l'Église soit plus visible d'emblée et que ce royaume de Dieu apparaisse plus visiblement, plus nettement, selon le fait que Dieu, déjà dans le Lévitique au chapitre 19, disait « Soyez saints, car moi je suis saint ». Eh bien, cette parole est répétée sans cesse par le Nouveau Testament. « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et saint Pierre, dans sa première épître, reprend cette parole « Soyez saints, car le Seigneur lui-même est saint ». Et nous avons donc à comprendre que c'est une institution de sainteté. La finalité de l'Église, comme nous disions dans l'émission précédente, c'est bien la sainteté. Je ne dois pas décoller un seul instant de ce désir de sainteté et ne pas voir l'institution d'une manière sociologique, purement humaine. Et sinon, je perds complètement la dimension invisible. Il y a une dimension visible, comme notre Seigneur a accepté une dimension visible de son humanité. Son corps était accessible, était visible, ses habits, sa façon de faire, de parler, etc. Tout cela, c'était accessible au sens, il était visible, mais il y avait cette dimension invisible. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu, deuxième personne de la Trinité. Et donc l'Église, pareillement, qui prolonge la vie du Christ, a cette double dimension, à la fois visible et institutionnelle, je dirais, au niveau palpable, mais il y a une institution aussi dans les cieux, puisque ce que nous lions sur la terre est lié au ciel, et il y a donc une Église invisible, une Église au ciel, qui est là, qui est constituée des anges et des saints, et qui nous attend dans la gloire.
Donc il n'y a pas de raison d'être déçu, comme cette phrase connue de Loisy qui disait on attendait le royaume de Dieu, puis on a eu que l'Église, ou voilà que l'Église nous est donnée.
Effectivement, c'est une horrible parole qui vient d'ailleurs du protestantisme dans son attaque contre l'Église catholique, qui a été traitée à l'époque de Martin Luther, surnommé Luther en abréviation du mot Eleutheros, parce qu'il voulait se libérer de l'Église, et qui considérait l'Église catholique comme une prostituée, comme une mauvaise fille, et qui n'avait pas vraiment accompli ce royaume de Dieu. Eh bien, c'est une illusion d'optique, c'est oublier que la pâte de notre humanité est pécheresse, et c'est une transformation progressive qui se passe, je dirais, génération après génération, homme après homme, et donc tout n'est pas donné, ce n'est pas un progrès, je dirais, ascensionnel, comme si on arrivait nécessairement à ce que l'Église soit de plus en plus belle à mesure que les siècles passent. C'est une ascension progressive de génération en génération. Il faut que des hommes se convertissent. C'est la prophétie de Jonas. Si Ninive ne se convertit pas, dans 30 jours, elle sera détruite. Donc ces annonces ont eu lieu tout du long dans les étapes précédentes de préparation prophétique, etc. C'est la même vérité qui atteint l'Église aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des saints, et seule la sainteté fait rayonner pleinement l'Église.
Au numéro 763, il est bien rappelé que l'Église est le règne du Christ déjà mystérieusement présent. Tu le disais tout à l'heure aussi. Mais donc, plutôt que de se dire il doit y avoir une erreur, l'Église n'est pas le royaume, ce serait plutôt à nous de changer notre regard sur notre Église.
Exactement.
Et d'essayer d'y trouver ce royaume du Christ.
Exactement. Je me souviens un jour, un journaliste s'amusait à titiller Mère Teresa de Calcutta, qui a été canonisée depuis. Et il disait, mais c'est pas possible, il y a telle et telle chose dans l'Église, ça ne va pas, etc. Mère Teresa, qu'est-ce que vous ne voyez pas qu'il faudrait tout changer? Et Mère Teresa a dit, oui, d'accord, mais la première chose, c'est à vous changer, vous et moi. Le changement commence non pas par une espèce de gargarisme de mots extérieurs, mais par un changement personnel. Et si celui qui parle de changement continue à déraper au niveau moral, c'est pas du tout un prophète de changement, c'est un prophète d'enfouissement dans le péché et de dérapage collectif et général.
Je pense qu'on peut rester sur cette image cette rencontre, de se rappeler, d'essayer de faire l'effort de mieux regarder notre Église et d'y voir toute la lumière qu'elle nous apporte et toute la beauté qu'elle porte en elle-même.
Et voilà. Par exemple, au début du numéro 764, c'est toujours d'actualité, le royaume brille aux yeux des hommes dans la parole. La parole, elle est proclamée, elle est accessible à tout le monde, c'est l'Évangile sans cesse proclamé dans les églises. Les œuvres, il y a les œuvres de charité, il y a tous les charismes dans l'Église, toutes les communions, je dirais, religieuses. Et la présence du Christ, on a la présence du Christ à la messe et dans le Saint-Sacrement de l'autel, on peut venir l'adorer. Donc, vous voyez, ce numéro 4 qui est donné de Lumen Gentium, numéro 5 du numéro 764, est toujours d'actualité.
Merci, frère Edouard.
Merci beaucoup, à bientôt.
À très bientôt.